Quand on veut interpréter un texte correctement, il est nécessaire de prendre en compte le contexte, sinon on peut véritablement faire dire ce qu'on veut à n'importe quel écrit. C'est d'ailleurs un reproche non mérité que les gens mal informés font à la parole de Dieu. Pour illustrer mes propos, je vais prendre comme exemple le premier verset du chapitre 11 du livre de Daniel qui dit « Moi, de mon côté, je me suis tenu auprès de lui dans la première année de Darius le Mède pour le soutenir et l'appuyer. » Cette phrase prise toute seule n'a ni queue ni tête. Elle ne signifie pas grand-chose parce qu'on ne sait pas qui parle et qui est lui. Mais si on considère le verset précédent qui dit « Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef », on y voit beaucoup plus clair car on sait déjà que c'est un ange, probablement Gabriel, qui s'adresse à Daniel. Les manuscrits originels, hébreux et grecs, n'ont ni chapitre ni verset. Ce découpage ne fait pas partie de la révélation de Dieu. Il est bien pratique, mais pas toujours réussi et quelquefois, franchement, maladroit. La version catholique Bible de Jérusalem a donc eu raison de coller ensemble les deux versets que j'ai cités. Je les lis. « Nul ne me prête main forte pour ces choses, sinon Michel, votre prince, et moi, en l'an 1 de Darius le Mède, je me suis tenu ferme pour lui prêter main forte et le soutenir. » On voit donc que grâce au contexte du dernier verset du chapitre 10, dans le premier verset du chapitre 11, on peut rapporter les pronoms aux personnes auxquelles ils se rapportent. Darius le Mède n'est mentionné que pour définir une période de temps. Gabriel dit donc à Daniel, « De même que l'archange Michel me soutient actuellement dans le combat que je mène contre les démons appelés chef de la Perse et chef de la Grèce, moi, je l'ai soutenu dans la première année de Darius le Mède. » Mais ce passage soulève une question. Pourquoi, en l'an 1 de Darius, Michel, le chef d'Israël, devait-il lutter pour les intérêts de son peuple? Et pourquoi avait-il besoin de l'assistance de Gabriel? Il suffit pour répondre à cette question de se rappeler que c'était une époque de grand chamboulement puisque la ville de Babylone venait de tomber dans le giron de l'alliance des Mèdes et des Perses. Il fallait donc influencer de toute urgence la position que prendraient les nouveaux dirigeants du Moyen-Orient vis-à-vis d'Israël. Ce fut la mission des anges Gabriel et Michel qui, à ce moment-là, durent déjà lutter contre la puissance démoniaque surnommée le chef de la Perse. Or, Cyrus, le grand patron du nouvel empire, et son vassal Darius, le nouveau roi de Babylone, ont tous deux été favorables à Daniel et à Israël. L'attitude bienveillante de ces deux potentats ainsi que les événements qui préparèrent la fin de la captivité d'Israël furent donc le résultat de la lutte des deux invisibles champions qui avaient pris en main la défense du peuple de Dieu. Malgré les ennemis qui l'entourent, Israël peut donc regarder l'avenir avec confiance, car ceux qui sont avec lui sont plus forts que ceux qui sont contre lui. Dieu le veut ainsi parce que dans ses décrets, la cause que représente Israël est le salut du monde. Les chapitres 10 à 12 de Daniel constituent la même révélation. Le chapitre 11 donne quelques détails supplémentaires concernant la 70e septaine dont il a été question précédemment et qui concerne particulièrement le peuple de Daniel, la nation juive. Cette révélation reprend aussi pour la développer la vision du bélier et du bouc et l'explication qui avait été donnée à Daniel. Elle esquisse d'abord à grands traits l'histoire de l'Empire perse, puis celle de la Grèce, jusqu'au morcellement de l'Empire d'Alexandre le Grand. Ensuite, elle décrit longuement les luttes entre deux des dynasties issues de l'Empire grec, celle des Ptolémées pour l'Égypte et des Séleucides pour la Syrie, qui se disputeront la possession de la Palestine. Cette confrontation est comme un pont prophétique qui remplit une partie du silence de Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette période fut très douloureuse pour le peuple de Dieu parce qu'il se trouvait au croisement de l'affrontement des armées égyptiennes et syriennes. Cette révélation décrit ensuite la venue au pouvoir d'Antiochus IV Épiphane et sa haine contre la religion et le culte des Juifs. Puis, après ce temps de calamité, elle annonce la délivrance finale du peuple de Dieu. Bien que Gabriel ne cite aucun nom propre, les détails qu'il donne sur les rois, leurs relations et leurs guerres sont si précis qu'il est facile de les faire coïncider avec ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Le chapitre 11 de Daniel se divise en trois parties. D'abord une courte histoire des monarchies perses et grecques, ensuite le récit des principales guerres entre les Ptolémées et les Séleucides, et enfin la description du règne d'Antiochus IV, Épiphane, surnommé le Néron de l'Ancien Testament à cause de ses persécutions des Juifs. Je continue le texte. « Maintenant donc, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois de Perse. » Ils seront suivis d'un quatrième qui amassera plus de richesses que tous ses prédécesseurs. Lorsqu'il sera au fait de sa puissance, grâce à sa richesse, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Verset 2. Cyrus a eu 9 successeurs, mais Gabriel utilise une tournure rhétorique semblable à celle qu'on rencontre dans le livre des Proverbes où il est dit « Il y a 3 choses et même 4 » qui sert à introduire une énumération partielle. Ici, ce sont les monarques perses. Il y a d'abord eu Cambyse, le fils de Cyrus, qui fut roi pendant 8 ans, puis Pseudo-Smerdis, qui usurpa le trône mais régna moins d'un an. Il fut suivi de Darius Ier, qui eut un long règne de 36 ans. Le quatrième fut Xerxès Ier, appelé Assuérus dans le livre d'Esther. C'est sous Darius qu'eut lieu la première confrontation sérieuse entre l'Empire perse et la Grèce. Comme tout potentat qui se respecte, Darius Ier essayait d'annexer ses voisins, mais il a mal choisi son adversaire. Son armée traverse le détroit du Bosphore et remporte un certain nombre de succès militaires, mais sa flotte est détruite par une tempête, ce qui force les Perses à abandonner. 2 ans plus tard, Darius repart à la charge, mais il tombe sur un os car il subit une cuisante défaite à Marathon. Ce sera tout pour Darius. 4 ans plus tard, il est succédé par Xerxès, le 4e empereur, qui décide de venger l'honneur de la Perse et attaque la Grèce avec des moyens considérables. Une armée de 300 000 hommes et plus de 400 navires. Mais ça se passe très mal. Il est d'abord humilié, puis péniblement vainqueur à Thermopyle, et enfin la même année, plus de la moitié de sa flotte est coulée par les Grecs dans le détroit de Salamine, près d'Athènes, ce qui force Xerxès à rentrer chez lui la tête basse. 15 ans plus tard, il finit assassiné par le capitaine de la garde de son palais. En termes stratégiques, son attaque contre la Grèce fut un désastre qui sonna le glas de son empire, car 150 ans plus tard, elle eut pour contrepartie la campagne militaire d'Alexandre le Grand, qui la haine au ventre contre la Perse, anéantit Darius III et fonde l'empire grec. Xerxès fut malgré tout le plus brillant des empereurs perses par ses richesses et son immense armée. Son règne marque à la fois l'apogée de la puissance perse et le commencement de son déclin. Après la défaite de sa flotte à Salamine, les dés étaient jetés et l'histoire, en marche, se déplaçait déjà en direction de la Grèce, le 3e empire des prophéties précédentes. Je continue le texte. Mais là-bas s'élèvera un roi valeureux et conquérant qui étendra sa domination sur un vaste empire et fera ce qu'il voudra. Verset 3. Ce roi valeureux et conquérant est Alexandre le Grand. Dans le rêve de Nabuchodonosor, l'Empire grec est représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Et plus loin dans le texte, par un autre animal qui ressemblait à un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes, puis enfin par un bouc. Dans cette dernière vision qui décrit la conquête de la Perse appelée Bélier par Alexandre le Grand, Daniel dit « Je vis un bouc arrivé de l'Occident, il parcourait toute l'étendue de la terre sans toucher le sol. Il avait une corne proéminente entre les yeux. Il parvint jusqu'au bélier à 2 cornes et se précipita sur lui avec violence. Il le frappa et brisa ses 2 cornes. Le bélier n'eut pas la force de lui résister. Le bouc le jeta à terre et le piétina. Le bouc devint très grand. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux représente le premier de ses rois. » Fin de citation. Je continue le texte. « Mais à peine le roi valeureux et conquérant aura-t-il assis son pouvoir, que son royaume sera brisé et partagé aux 4 coins de l'horizon. Il ne reviendra pas à ses descendants, mais il lui sera arraché et réparti entre d'autres qu'eux, et il n'aura pas la même puissance. Verset 4. Dans une prophétie précédente, il est dit du bouc que lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée. Alexandre le Grand était probablement le plus grand stratège que le monde ait connu, mais il est mort très jeune, à l'âge de 33 ans, suite à une fièvre qu'il a, semble-t-il, voulu noyer dans l'alcool. Peu après sa disparition, ses deux fils seront assassinés et quatre de ses généraux se feront la guerre. Après 22 ans de luttes internes, puis une nouvelle guerre, ses généraux se partageront l'Empire grec. Chacun se proclame alors roi du territoire qui lui est échu, mais aucun d'entre eux n'a la carrure d'Alexandre, et ils continueront à se faire la guerre jusqu'à ce qu'éventuellement ils soient tous conquis par Rome. Dans des visions précédentes, ces quatre dynasties sont représentées par les quatre vents qui agitent la grande mer, par les quatre têtes d'un léopard et par les quatre cornes qui ont poussé à la place de la grande corne qui s'est brisée. Je continue le texte. Le roi du Midi s'affermira, mais l'un des chefs de son royaume deviendra encore plus fort que lui. Il exercera une domination plus grande que la sienne. Verset 5. À la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, son demi-frère, atteint de troubles mentaux, ne peut prendre sa suite. Perdiccas, général macédonien et ami personnel d'Alexandre, est nommé administrateur de l'Empire. Il sera assassiné 2 ans plus tard. Le premier partage de l'Empire grec se fait entre 5 généraux. Un certain Antipatros devient régent de la Macédoine et de la Grèce, mais à sa mort, il confie son royaume à son adjoint au lieu de son fils Cassandre, une très mauvaise idée. Ce dernier fait la guerre à cet homme et s'empare d'Athènes. L'année suivante, Cassandre assassine la mère d'Alexandre, Roxane, sa femme d'origine perse, ainsi que son fils. Telle est la fin lamentable de la famille du grand Alexandre qui avait été pendant quelques années le maître du monde. Le général Antigone administre la Phrygie et la Lycie situées au centre et au sud-ouest de la Turquie. Le général Ptolémée Soter est nommé régent de la Libye et de l'Égypte dont il deviendra roi. C'est lui qui dans la prophétie est appelé le roi du Midi. À un moment donné, il essayera d'étendre son domaine mais sera vaincu sur l'île de Chypre par le fils du général Antigone. Le général Lysimaque est régent de Thrace qui incluait une partie de la Bulgarie, Turquie et de la Grèce. Un autre général d'Alexandre s'appelait Séleucus Nicator. Il est appelé l'un des chefs du roi du Midi. Il était d'abord subordonné à Ptolémée, mais lors du second partage de l'Empire grec qui eut lieu 2 ans après la mort d'Alexandre, il devient régent de Babylone. Il prendra le titre de roi 9 ans plus tard et établira la dynastie des Séleucides qui fut une malédiction pour Israël. 6 ans après s'être installé à Babylone, Séleucus est attaqué par Antigone et par Démétrios, son fils. Séleucus appelle alors à son aide Ptolémée, son ancien patron, ce qui donne lieu à de nouveaux affrontements sporadiques entre les anciens généraux. Finalement, une bataille décisive a lieu dans laquelle les généraux Ptolémée, Séleucus et Lysimaque sont alliés contre Antigone. Si ce dernier avait été vainqueur, il aurait pu devenir le seul héritier de l'Empire d'Alexandre, mais il est tué au combat. Suite à cette bataille, l'Empire est divisé en 4 royaumes. Lysimaque est roi de Thrace et d'une bonne partie de l'Asie mineure. Le roi Ptolémée conserve l'Égypte et la Libye. C'est lui qui a fondé la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, ville dont il avait fait sa capitale. Démétrios, le fils du général Antigone qui est mort au combat, devient roi de Macédoine et des villes grecques qui lui sont dépendantes. Séleucide, dont le pouvoir s'est considérablement accru, obtient la région centrale de l'ancien empire perse, qui va de la Phrygie au centre de l'Asie mineure jusqu'au fleuve Indus aux Indes, ainsi que la Syrie dont il devient roi. Mais ce nouveau partage ne tient pas et de nouvelles guerres éclatent qui dureront encore 20 ans. Enfin, l'Empire d'Alexandre est à nouveau divisé, mais en 3. La Macédoine revient à la dynastie d'Antigone, l'Égypte à Ptolémée et les Séleucides obtiennent tout le reste, c'est-à-dire une grande partie de l'Asie mineure, la Syrie, le Moyen-Orient et la Perse. À la fin de sa vie, Séleucus revendique aussi la Macédoine, mais il est assassiné. À sa mort, son empire s'étendait de la Méditerranée au fleuve Indus en Inde et du Pakistan au golfe Persique. Je sais très bien que toutes ces informations sont un peu barbantes, mais c'est l'arrière-plan du texte de Daniel. Dans le chapitre 11 de ce livre, l'ange Gabriel lui a dit que le roi du Midi, c'est-à-dire Ptolémée, s'affermira, mais l'un des chefs de son royaume, c'est-à-dire Séleucus, deviendra encore plus fort que lui. La prophétie ne va concerner que l'Égypte, située au sud d'Israël, et la Syrie, qui est au nord, parce que les Juifs, qui jusqu'alors étaient à peu près tranquilles, se trouvent dorénavant en plein champ de bataille entre les deux royaumes qui se disputeront la Palestine pendant près de 2 siècles, jusqu'à ce que Rome les mette d'accord en les annexant. Je continue le texte. Quelques années plus tard, ils s'allieront l'un avec l'autre et la fille du roi du Midi se rendra auprès du roi du Nord pour établir des accords. Elle ne conservera pas sa force et sa postérité ne subsistera pas. Elle sera livrée à la mort avec ceux qui l'avaient amenée, de même que son père et celui qui l'avait soutenue pendant quelque temps. Verset 6. C'est un peu compliqué. En Égypte, le roi Ptolémée Ier Soter meurt et son fils Ptolémée II, Philadelphe, lui succède. En Syrie, Séleucus Nicator est assassiné. Il est succédé par Antiochus I, Soter, puis par Antiochus II, Théos. Le fils du fondateur de la dynastie égyptienne et le petit-fils du fondateur de la dynastie syrienne sont contemporains de farouches ennemis et mourront la même année. 4 ans avant leur mort, ces deux hommes font alliance par mariage. Le roi d'Égypte donne sa fille Bérénice au roi de Syrie, qui est obligé de répudier sa femme Laodicée et de déshériter ses enfants. C'est une magouille pas possible qui sent la poudre. En effet, le texte hébreu dit « Mais elle ne conservera pas la force du bras et son bras ne subsistera pas ». Bérénice perdra la force du bras qui est son père et son propre bras qui est son fils qui mourra. Le texte continue disant « Et elle sera livrée, Bérénice, elle et ceux qui l'auront amenée avec son père et celui qui l'aura soutenue dans ces temps-là ». Le mot traduit par « livrée » exprime généralement une mort violente. Et en effet, dès que le décès du roi d'Égypte est parvenu au roi de Syrie, ce dernier a répudié sa femme égyptienne Bérénice et repris son ancienne Laodicée. Mais cette dernière, pour venger l'affront qu'elle a subi, fait un massacre. Elle empoisonne son mari, fait assassiner Bérénice et son fils ainsi que tout le personnel égyptien qui les avait accompagnés. Laodicée place alors sur le trône son fils Séleucus II Callinicus. Je continue le texte. Mais un membre de sa famille, c'est-à-dire de la dynastie égyptienne, se lèvera et prendra la place de son père. Il marchera contre l'armée du roi du Nord, investira sa forteresse, l'attaquera et remportera la victoire. Verset 7. La tentative d'alliance entre l'Égypte et la Syrie ayant échoué, la guerre éclate. Ptolémée III et Vergète, frère de Bérénice, succède à son père défunt et marche contre le nouveau roi de Syrie pour venger sa sœur. Il fait exécuter Laodicée et s'empare d'une grande partie de la Syrie et de la Cilicie, la partie sud de la Turquie. Je continue. Il emportera même comme butin en Égypte leurs idoles et leurs statues de métal fondu avec leurs objets précieux d'or et d'argent consacrés à ces divinités. Pendant quelques années, il se tiendra loin du roi du Nord. Verset 8. La prise des divinités d'un pays était le signe d'une victoire totale. Le roi d'Égypte doit interrompre sa conquête de la Syrie et rentrer à cause d'un soulèvement contre lui dans sa patrie. Mais il revient les bras chargés de cadeaux. Les annales que nous possédons, mais qui exagèrent toujours, parlent de 150 tonnes d'or, 1500 tonnes d'argent et 2500 idoles en fonte, dont certaines d'origine égyptienne, que le roi perse Cambyse avait ramenées chez lui. Le peuple, qui était très attaché à ces fausses divinités, fut si heureux de leur retour qu'il donna à Ptolémée le surnom d'Evergète, qui signifie « bienfaiteur ». Par ailleurs, Ptolémée était bienveillant à l'égard des Juifs. Je continue le texte. Par la suite, celui-ci envahira le royaume du roi du Midi, puis il retournera dans son pays. Verset 9. Après que la Syrie ait été envahie par le roi d'Égypte, le roi de Syrie attaque l'Égypte, mais il subit une cuisante défaite et doit retourner chez lui la tête basse. Puis il se tue accidentellement en tombant de son cheval. Décidément, les membres de la dynastie syrienne ne meurent pas souvent de mort naturelle. Le fondateur a été assassiné, son petit-fils aussi, et voilà que son arrière-petit-fils se rompt le cou. On pourrait penser qu'ils sont sous un mauvais sort, mais en réalité, c'est Dieu qui trace la destinée de tout homme.